je m'échine sur ma machine, je tape des mots sur le papier. Moi je m'échine sur ma machine, je tape des rimes et je compte les points.
Au cœur de l'ennui, y avait un mur en béton gris. Dans ma ville, au cœur de l'ennui, y avait un mur en béton gris. D'ailleurs, même pas un rose bonbon, le béton reste le béton. Les gens travaillent, ils sont sérieux, même quand ils se marrent, ils sont sérieux. Les gens travaillent, ils sont sérieux, même quand ils se marrent, ils sont sérieux. Ils sont contents, ils sont polis, tout est en ordre dans le pays. Faites l'amour, chassez l'hiver, rasez les Alpes, lâchez le vent, qu'on ait de l'air, rasez les Alpes, qu'on voit la mer. Dans ma ville au cœur de l'ennui, où la vie ne fait pas de bruit. Dans ma ville au cœur de l'ennui, où la vie ne fait pas de bruit. Il y avait un mur et puis derrière, une banque avec tout l'or de la terre. Tous les matins les nettoyeurs nettoient, y'a rien qui traîne d'ailleurs. Tous les matins les nettoyeurs nettoient, y'a rien qui traîne d'ailleurs. La merde est cachée, bien rangée, si profond qu'on l'a oublié. Faites de l'amour, chassez l'hiver, rasez les Alpes.
Thank you. Bonjour, vous écoutez l'émission Des mots, une voix de Thierry et Erwan sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Vous pouvez contacter directement l'émission au mail demo.unevoix@gmail.com. Vous pouvez aussi la contacter par courrier au 145 rue Amelot, librairie Publico, émission Des mots, une voix, dans le 11e arrondissement à Paris. Vous pouvez prendre la carte d'auditeur à la librairie pour 20 euros pour nous aider à faire des émissions libres et sans publicité. Et vous pouvez aussi sinon faire un prélèvement de 8 euros par mois. Et tout ça, ça nous aide. Je vous remercie. Nous sommes ce mois-ci en entretien avec Olivier Appert pour une anthologie de la littérature carcérale de Charles d'Orléans à Charlie Bauer, À l'ombre, sortie aux éditions Le Temps des Cerises en 2023, et pour Une selle de Mina Loy, qu'il a traduit et préfacé, sortie aux éditions Nous en 2024. Et nous recevons aussi en deuxième partie d'émission Sébastien Berlendis pour Longomar, sorti aux éditions Actes Sud en 2004, et d'autres livres sortis aux éditions Stock, si on a le temps d'en parler, mais je crois pas. Nous allons commencer avec Olivier Appert, si vous voulez bien, Sébastien, qui vient de sortir une anthologie de la littérature carcérale de Charles d'Orléans à Charlie Bauer à l'ombre aux éditions Le Temps des Cerises. Dans le milieu où vous avez grandi, d'abord on commence par les questions d'ordre général et biographique, ouais, Olivier Appert, oui. Que vous aimez beaucoup, beaucoup, je crois. Dans le milieu où vous avez grandi, y avait-il des livres ?
Comme je savais plus ou moins que vous alliez me poser la question, je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que je dirais la vérité ? Après tout, l'auditeur que j'ai grandi ou non avec des livres, il le saura jamais, enfin bon, sauf si je lui dis maintenant. Alors, puis après, je me suis dit, non, je ne vais pas quand même embêter Thierry à ce point-là, mais j'ai pensé ce matin, je me suis dit, mais dans le fond, en fait, ce qui compte, c'est le goût inné.
Vous croyez que c'est inné déjà ?
J'ai bien le goût du livre et de la littérature que j'ai eu. Alors, je cherche dans le temps à quand ça remonte.
Ben, c'est formé quand vous, oui. À un jour de, vous étiez pas littéraire, à un jour de la naissance.
Mais le goût du livre et le goût de la littérature. Ça, par exemple, le goût de l'objet livre, ça peut commencer par là. Et alors, pour vous répondre, bien entendu que le cadre, comme on dit, socio-culturel joue énormément, c'est pas la question.
Oui, bien, c'est ça, ouais.
Oui, mais ce qui compte, je me suis dit qu'à cadre socio-culturel égal, certains auront ce goût du livre, d'autres moins.
Oui, oui,
bon,
bien
vous voyez
sûr.
Ce que je veux dire ?
Aussi, oui, bien sûr.
Et alors, soudainement, je me suis dit, dans le fond, remontons au premier livre qui m'est touché.
Bah, ben, c'est ça que je veux.
Alors, le premier livre qui m'est touché, c'est comme, j'apprécie pas trop de parler de moi, mais enfin là, dernière année de maternelle, je savais lire et écrire. Et la dernière année de maternelle, j'ai lu une version pour enfants, bien entendu, Robinson Crusoe.
C'est
ça. Ça a été fondamental, parce que ça a été en même temps doublé, si vous voulez, avec l'objet livre. Je veux dire par là que l'expérience de l'écriture, l'expérience, elle a commencé aussi par l'objet livre. Et là, je peux vous dire, par exemple, Robinson Crusoe a beaucoup, beaucoup compté. Et après, dans le même mouvement, si j'ose dire, ça a été Don Quichotte. Pareil, dans une version un peu expurgée, pas expurgée, enfin une version digest, si j'ose dire, pour enfants, adolescents, ça a été Don Quichotte. Donc ça a beaucoup compté. En troisième plan, plus que le cadre, si vous voulez, c'est ce mot délicieux qu'on appelle la sérendipité. Plus tard, j'ai beaucoup pratiqué la sérendipité, c'est-à-dire la déambulation, notamment beaucoup au moment où il y avait encore d'excellents bouquinistes sur les quais du côté aujourd'hui de l'Institut du Monde Arabe. Il y a toute une première partie qui est très littéraire et on trouvait ce que j'aimais beaucoup. Des livres en édition originale. Donc j'étais à un moment donné un grand amateur, presque un collectionneur d'éditions originales. Originales au sens, pas forcément première édition, mais des éditions qui étaient publiées du vivant des auteurs. Et je me disais, j'aimais beaucoup avoir, par exemple, en disant, tiens, peut-être que, alors je sais pas, j'avais acheté tout un ensemble d'Alfred de Vigny, je me disais, donc relié, etc. Je me disais, ça se trouve, Vigny, il aurait pu toucher ses livres, etc., etc. Alors voilà, donc ça c'est un peu pour répondre directement et indirectement. Et donc ceci, et donc ce côté, ce goût inné, et puis ajouté à ce que j'appelle la sérendipité, quoi.
Lectures d'adolescence qui vous ont marqué, l'auteur qui les livres, les mondes qu'on découvrait.
J'allais dire comme tout le monde.
Dites comme tout le monde. Lesquels?
Comme tout le monde.
Comme il y a des milliers que tout le monde a pas les mêmes.
Ouais, c'est vrai. On va dire toute l'adolescence et toute la littérature classique française. Après, toute la littérature italienne, la littérature russe, la littérature anglaise, la littérature américaine. Il y a un territoire qui est auquel je suis moins familier, c'est la littérature sud-américaine. Je ne sais pas pourquoi, ça ne m'a jamais excité plus que ça. Alors, mais bon, les grands auteurs qui nous ont bouleversés, qui m'ont bouleversé, c'est Baudelaire, bien sûr, Rimbaud, Lautréamont, Charles Cros, Proust, Breton, Jouve. Pour ce qui concerne les Français, pour les Russes, c'est bien sûr comme Dostoïevski, Tchekhov, enfin bon.
Et vous y compreniez quelque chose, par exemple, à Dostoïevski?
Ah bah oui, j'ai adoré, au moins j'ai adoré.
À quel âge vous l'avez lu? En gros
14-15 ans.
Ah ouais, parce que moi je mélangeais les prénoms, je sais jamais qui était qui, comme ils changent de nom sans arrêt.
Bah il y a le nom.
Quand je l'ai lu la première fois, je me dis...
Non mais moi, par quoi on peut pas ne pas être enthousiasmé chez Dostoïevski, c'est par... Bon, alors, il faudrait voir, je suis pas... moi, je l'ai lu dans la traduction de Gallimard des années 30-50. On ne peut pas ne pas être saisi, happé, capturé par la frénésie de la langue de Dostoïevski. Et ça, c'est quelque chose qui m'a complètement emballé. Quoi.
Moi, je ne connaissais pas du tout ce pays, donc vous imaginez le choc. Quoi. Je ne connaissais rien de ce pays,
oui,
quand j'ai lu Dostoïevski.
Mais on n'a pas besoin de connaître la Russie.
Mais c'est ça qui m'a fait découvrir. Bon, quoi.
Bah, voilà, enfin, c'est une certaine Russie d'autrefois. Enfin, d'autrefois, c'est une autre histoire.
Avez-vous fait des études littéraires? Pourquoi? Que souhaitiez-vous avec ces études? Je pose la question parce que c'est pour inciter les jeunes à faire des études littéraires.
Oui, est-ce qu'il faut les inciter à faire des études littéraires?
Ouais, voilà, chacun. Moi, j'ai cette réponse.
Ouais. Alors, j'ai fait des études littéraires, Paris 8, pour ne rien vous cacher, Paris 8, Saint-Denis, voilà.
Excellente fac.
Oui, excellente, avec notre ami, auquel je ne manque pas d'adresser un salut, Michel Deguy, comme directeur
qui a été mon prof aussi. Voilà. Comment écrivez-vous? Ça, c'est la question cuisine. À la main, à l'ordinateur?
À la main.
Le matin, la nuit?
L'après-midi pour les essais et plutôt la nuit pour la fonction poétique, je dirais.
D'un jet plutôt, en reprenant beaucoup de textes?
Non, je travaille beaucoup. Je rature beaucoup pendant, pas après coup, je relis pas après coup. Je considère que quand on écrit une phrase, il faut qu'elle soit... faut qu'elle soit, je ne vais pas dire parfaite, ça serait ambitieux, ça serait prétentieux, faut qu'elle soit la plus juste possible. Donc j'y travaille jusqu'au moment où elle est la plus juste possible. Après, je n'y reviens pas.
C'est les deux, quoi. Donc,
oui, enfin, il y a beaucoup de travail, mais pendant, pas...
Huit jours après, vous ne reprenez pas la page.
C'est écrit, etc. À la différence, par exemple, de beaucoup de romanciers qui viennent, qui éliminent, qui...
Oui, même etc. Quand on lève des bouts, quand on rajoute...
Voilà, moi, c'est vraiment... Là, il faut que la phrase soit... tac. Enfin, tant qu'elle n'est pas... juste comme elle doit être, ou comme je pense qu'elle doit être, ou comme j'espère qu'elle doit être, comme j'aspire... J'y travaille.
À votre bureau, au café, au lit?
Plutôt au bureau.
Et au café, ça vous arrive des fois?
Je prends des notes beaucoup au café, oui.
Ah oui, quand même.
Oui. Enfin, c'est des notes, là, c'est petit.
C'est quand même écrire, quoi.
Oui, c'est prendre des notes, c'est pas... Il n'y a pas le travail de la
phrase, comme
vous dites. Il n'y a pas le travail de la langue, quoi.
La phrase finie, livre précis, quoi.
Voilà, c'est les notes, plus.
Oui, non, mais bon, c'est quand même écrire, quoi.
Oui, ça, oui, c'est
écrire. Moi, j'en suis complètement incapable.
Bon.
Comment écrire? Ça, c'est fait. Vous avez été un peu prof. rédigé un guide sur le Portugal, un sur l'Irlande, était critique littéraire, journaliste pigiste. Vous avez fait des interventions et ateliers d'écriture et fait des résidences d'auteurs. Tout ceci vous a-t-il enrichi, Olivier Appert, ou pas trop?
Alors, l'enseignement, ça a été vraiment très peu. J'ai dû faire 6 mois à l'éducation nationale. Un an aux Beaux-Arts, un an à la Chambre de commerce, Bon, c'était plus de l'alimentaire, on va dire.
Faut bien manger. Hein.
Et puis voilà. Donc je sépare, si vous voulez, l'alimentaire du reste.
D'accord. Pouvez-vous nous parler de vos créations pour l'opéra, le théâtre et la danse? Quel est votre rapport à ces trois arts?
Ça serait long, là, mais bon...
Bah, allez-y, on a le temps.
On n'aura plus le temps de parler des livres. Ça ne peut être chez moi que l'amour naturel, même si le mot ne convient pas. Enfin, grosso modo, naturellement, j'ai eu un désir d'écriture théâtrale, un désir d'opéra aussi, bien entendu. Un désir de théâtre, par exemple, le désir de théâtre qui remonte à très très loin. Le désir de théâtre, en fait, il remonte à... Là, on peut remercier l'école publique. Dans le fond, c'est en troisième. J'ai eu un coup de foudre pour Andromaque de Racine. Et évidemment, en troisième, donc on est encore un peu petit, j'ai commencé à écrire moi-même ma tragédie en vers. Bon, une catastrophe.
Bon, là, tout fait.
Oui, ou pas presque.
Vous avez fait, Sébastien? Vous n'avez pas écrit jeune quelques des poèmes comme Baudelaire, comme Rimbaud?
Non.
Ah, c'est marrant.
Et donc, mais par contre, le désir théâtral est resté là. Alors, j'ai mis ça de côté, je veux dire. Après, ça a été plus le poème, enfin, les essais. Et puis, avec une rencontre... D'abord, il y a eu l'opéra, si vous voulez. L'opéra, c'est... J'avais imaginé toujours, dans la rencontre inédite entre deux grandes figures mythiques de la mythologie grecque, Oreste et Oedipe. Voilà, ce qui est une rencontre qui n'avait jamais été faite, même théâtralement, je veux dire, chez Sophocle, chez Eschyle, etc., etc. Et ni plus après par les auteurs des théâtres classiques. Et donc, j'ai imaginé cette rencontre. Il se trouve que par un heureux hasard, j'étais invité par l'Institut culturel en Roumanie, à Cluj, et j'ai fait la connaissance d'un des grands compositeurs roumains, Cornel Țăranu, j'ai parlé de ce projet de livret, donc la rencontre inédite entre Oreste et Oedipe, et qui a pris le parti d'écrire la musique, et d'autant plus que c'était d'autant plus pour lui à la fois un enjeu, un pari et un défi que la pièce, si vous voulez, du plus grand compositeur roumain classique, Enescu, c'est un opéra qui s'appelle Oedipe. Donc, c'était aussi pour lui à la fois une réponse à Enescu, etc., etc., voilà. Et donc, nous avons réussi à produire.
Vous l'aviez lu, l'autre pièce?
Laquelle?
Teldorescu.
D'Enescu, c'était un opéra.
Et vous l'aviez lu?
C'était un opéra.
Vous aviez lu le livret?
Non, oui. Enfin, bon, c'est que mon livret, moi, était déjà structuré.
Je l'avais non, mais vous aviez la référence.
J'avais la référence. Du livret.
Du compositeur.
Du compositeur, oui. Je connaissais la pièce.
D'accord.
Mais bon, ça n'a rien influé sur, sur l'écriture de mon propre livret. Voilà, et puis bon, par chance, en quelque façon, ça a été joué en Roumanie, en Belgique, en France, on l'a fait venir, ça a été tout un... Parce que c'est pas simple, hein, de faire monter un opéra contemporain, je ne vous dis pas. Il y avait quand même 8 chanteurs, l'orchestre, petit orchestre, enfin, 8 musiciens, enfin bon, c'est énorme, quoi. Et bon, enfin bon, on a réussi à le monter, quoi. Voilà, ça c'était très beau. Et après, ça s'est prolongé, si vous voulez, à cette occasion. J'ai fait une rencontre avec un metteur en scène. Et puis là, hop, ça m'a remis en route pour l'écriture théâtrale. Voilà.
D'accord. Je propose qu'on mette un morceau de musique, Arwan. Musique, Erwan.
Sur mon cou sans armure et sans haine, mon cou, que ma main plus légère et grave qu'une veuve effleure sous mon col sans que ton cœur s'émeuve. Laisse tes dents poser leur sourire de loup. Oh viens mon beau soleil, oh viens ma nuit d'Espagne. Arrive dans mes yeux qui seront morts demain. Arrive, ouvre ma porte, apporte-moi ta main. Mène-moi loin d'ici, battre notre campagne. Le ciel peut s'éveiller, les étoiles fleurir, ni les fleurs soupirer des prés l'herbe noire. Accueillir la rosée où le matin va boire. Le clocher peut sonner, moi seul je vais mourir. Oh viens mon ciel de rose, oh ma corbeille blonde. Visite dans sa nuit ton condamné à mort. Arrache-toi la chair, tu escalades mort. Et viens pose ta joue contre ma tête ronde. Nous n'avions pas fini de nous parler d'amour. Nous n'avions pas fini de fumer nos gitanes. On peut se demander pourquoi les cours condamnent un assassin si beau qu'il fait pâlir le jour. Amour, viens sur ma bouche, amour, ouvre tes portes. Traverse les couloirs, descends, marche léger. Vole dans l'escalier, plus souple qu'un berger. Plus soutenu par l'air qu'un vol de feuilles mortes. Oh, traverse les murs, s'il le faut, marche au bord des toits. Des océans, couvre-toi de lumière. Use de la menace, use de la prière. Mais viens, ô ma frégate, une heure avant ma mort.
Bonjour, vous écoutez l'émission Des mots, une voix de Thierry, avec Erwan à la réalisation. Nous sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. Nous recevons ce mois-ci Olivier Appert et Sébastien Berlendis. Nous sommes en première partie d'entretien avec Olivier Appert. Nous avons eu des questions d'ordre général et biographique. Nous allons passer aux questions sur une anthologie de la littérature carcérale de Charles d'Orléans à Charlie Bauer, à l'ombre, sortie aux éditions Le Temps des Cerises en 2023. Ce livre fait partie d'un triptyque paru au Temps des Cerises. Pourquoi un triptyque? Quelle unité? Pouvez-vous nous en dire plus?
Oui, alors, triptyque parce que, donc, on essaie de faire un synthétique et simplifié. Alors, le premier volume, c'était une traduction d'anthologie des poètes américaines du XXe siècle, d'après Emily Dickinson, jusqu'à la fin du XXe, grosso modo. Deuxième anthologie, une anthologie des paroles du blues original, donc de grosso modo de 1920 à 1960. Et la troisième, c'est celle-ci. Donc, on va dire, c'est pour moi une anthologie... Enfin, ce triptyque est un triptyque éthico-politique. Voilà, donc éthico-politique, c'est-à-dire trois... comment dit-on? Dans le langage, dans l'afro-langage socio-politique, ce serait le trois présences de ce qu'on appelle horriblement des minorités visibles. C'est-à-dire les femmes... Les noirs,
les gens qui luttent, quoi, plutôt.
Les femmes, les noirs, et là, la littérature carcérale, les prisonniers. Donc, c'est un geste éthico-politique de ma part, en simplifiant.
Et mais l'unité de ces trois-là, par exemple, c'est
ça l'unité. C'est oui, c'est de faire ce triptyque.
Comment s'en est chez vous l'idée et les premières notes de ce livre?
L'idée de à l'ombre.
Oui, des autres aussi en même temps, ça peut.
Bah, c'est un peu ce que je viens de vous dire. À un moment donné, c'est l'idée. On ne sait pas comment ça arrive. Alors l'idée, on est là un jour, puis tiens. Alors l'idée du blues. On avait parlé récemment à un ami comédien. Et il me dit, oui, mais c'est génial. Mais je dis, oui, mais écoute, ça n'a jamais. La musique qui a le plus influencé le XXe siècle, voire le XXIe, c'est sans doute le blues. Bon, voilà, pour ce qui est de la musique dite populaire au sens large du terme. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, ça n'a jamais été fait. Donc cette référence absolue, cette musique qui a influencé tout le XXe siècle, tout le XXIe siècle, ça n'a jamais été fait. Et là, paf, l'idée m'est tombée dessus, j'ai dit donc il faut que je le fasse, une sorte d'impératif, encore une fois, éthique, intellectuel, sensible, il faut que je le fasse, voilà. De même pour la littérature, la carcérale, l'idée m'est venue, simplement, je me suis dit, voilà, enfin simplement, l'idée m'est tombée dessus, une évidence m'est tombée dessus, c'est qu'il y a, considéré, il existe, on reconnaît, une littérature concentrationnaire, extrêmement puissante, extrêmement forte. Bon, tout le monde, Robert Anthelme, Primo Levi, etc., etc. Et je me suis dit, de même qu'il existe une littérature concentrationnaire, de même il existe une littérature carcérale. Voilà. Aussi puissante, aussi essentielle, et aussi, comme vous voulez le noter, combative. Parce que c'est une littérature de combat. Et je peux, ce que je vais faire, c'est juste lire le tout début de la préface, comme ça, ça répond encore plus précisément, parce qu'on est toujours en dessous quand on parle que de ce que l'on écrit. Voilà, je dis simplement la chose suivante. L'hypothèse, la proposition de ce livre pourrait s'énoncer au plus simple, de même qu'il existe une littérature concentrationnaire, Anthelme, David Rousset, Primo Levi, Chalamov, pour ne citer que, littérature essentielle, il est une littérature carcérale tout aussi puissante, tout aussi paradoxalement vitale, parce qu'elle doit à minima affronter la privation de liberté. Privation de liberté, puisque c'est l'expression euphémisée qui est utilisée lorsque les prisons sont désignées comme, entre guillemets, lieu de privation de liberté, parfois sanctionné par des conditions de détention.
Ça va souvent bien plus.
Qui l'outrepasse pour aboutir à l'annihilation de toute dignité humaine, à la dégradation mentale et physique des personnes incarcérées.
Ça va souvent bien plus.
Ben, c'est ce que je dis là.
Ouais,
c'est ce que je dis là.
C'est lamentable.
Voilà. Donc, si vous voulez, voilà la base. Voilà le départ.
Ben, regardez ma question, vous allez pouvoir développer. La question d'après, c'était de vous parler de littérature carcérale et concentrationnaire, pourquoi les rapprocher? Parce qu'il y a vous venez de l'expliquer, mais oui. Si vous pouvez d'expliquer encore, parce que c'est important, ça. La privation de liberté, quoi, en gros.
Bah, la privation
de liberté. Enfin, avec une.
Il y a d'un côté la privation de liberté.
Il y a le condamné à mort, là, qu'on vient d'écouter, voilà. Serge Genet.
Voilà.
Avec la même fin pour cette chanson, quoi.
Voilà. Il y a d'un côté, si vous voulez. Je précise bien que les conditions de détention sont évidentes. On ne peut pas comparer un camp de concentration, bien entendu, à une prison. Encore que certaines prisons, aujourd'hui, on le sait, les rapports sont là. La contrôleuse générale des prisons elle-même dénonce. Les rapports, par exemple, il y a eu un rapport sur les prisons au Beaumet à Marseille. C'est une horreur totale. On est au bord de la déshumanisation. Je veux dire, c'est jusqu'à 4 à 5 détenus par cellule, des rats qui courent partout. Enfin bon, c'est l'horreur
des
totale.
Des punaises.
Enfin bon, voilà. Donc je dis simplement là qu'il y a dans certains cas, effectivement, certaines prisons qui s'assimilent parfois à des camps, pas de concentration, mais des camps de rétention. Et cependant. Je tiens aussi à préciser que c'est pas un livre de sociologie ou un, ça s'appelle une anthologie de la littérature carcérale de Charles d'Orléans à Charlie Bauer. C'est aussi très important. Je voulais pas que on reste aussi sur comment dire une portée, une dimension aussi littéraire, puisque le Charles d'Orléans à Charlie Bauer, on voit bien le clin d'œil de Charles à Charlie, mais Charles d'Orléans, c'est le prince poète exilé chez les Anglais pendant 25 ans, mais c'est un prince. Donc voilà. Et donc, à partir de là, si vous voulez, j'ai tâché de privilégier des écrits, entre guillemets, littéraires, et dans la mesure du possible, qui auraient été écrits, qui ont été écrits en prison même. Voilà. Donc, vous parlez de. Voilà, je peux éventuellement.
Oui, allez-y.
Évoquer. Ouais, reprendre une partie du sommaire pour donner.
Oui, allez-y. Au contraire, parce que, bon, il y a beaucoup d'auteurs, mais il n'y en a pas non plus 5000, quoi.
Bah, voilà. Il y a donc Charles d'Orléans, François Villon, Clément Marot, André Chénier, Germain Nouveau, Wilde, Guillaume Apollinaire, Jean Genet, Albertine Sarrazin. Tout ça est bien entendu construit. Hein. Ce n'est pas une anthologie au sens... c'est pas un bottin. On n'accumule pas les gens comme ça, les uns à la suite des autres.
C'est par thème qui se suivent.
Donc j'ai voulu appeler ça en faire en sorte que ce soit une sorte de roman anthologique. C'est-à-dire que ce soit regroupé par motif, par thème. Donc le premier thème où je viens de citer, donc qui se termine par Albertine Sarrazin, s'appelle « La consolation par l'écriture ». Là, on est plutôt du côté du lamento, de la plainte, etc. La deuxième partie, « L'injustice, le marquis de Sade, Toussaint Louverture, Olympe de Gouges, François-Camille Cron, Alfred Dreyfus ». Troisième partie, « La révolte au ventre », Pierre-François Lassner, Louise Michel, Grésy d'Édith Réal, Serge Livrezet, Charlie Bauer, Nobel Spice et Claude Lucas. L'insoutenable des humaniations, c'est Henri Alleg. Et puis l'obsession-évasion, etc. La mort en face, l'ironie malgré tout. Voilà, donc sept chapitres qui disent à chaque fois et des humeurs et des situations différentes. Et à l'intérieur de ces thèmes, j'ai fait en sorte que ce soit organisé chronologiquement. C'est-à-dire qu'on puisse avoir en même temps, en quelque façon, une sorte d'histoire des conditions de détention, donc du 16e, 15e à nos jours, quasiment. Parce que le seul auteur vivant, là, c'est Claude Lucas, donc, qui est toujours en vie. Voilà, j'ai répondu à peu près. Je peux développer encore bien longtemps. Hein.
Bon, non, c'est bien.
C'est bien, bon, si vous le dites.
Page 32. Alors, je ne sais plus ce que je dis, la page 32.
Oui, page 32, c'est Villon.
Dans la bio, votre note sur François Villon.
Oui.
On trouve une coquille, figure l'année 1862. Je vous le signale pour que cela ne se reproduise pas si vous faites une réédition.
Ah, oui, d'accord, merci Thierry. Ben, ça, j'y suis pour. Oui, ben, j'ai mal relu.
Bah, oui, notez-le. Non, mais c'est un petit détail, mais bon.
Oui, oui, oui.
Il y a des gens qui seront perdus. Alors, c'est. Ouais. Il suffit que ce soit écrit pour que ce soit vrai.
Vous connaissez le mot de Boris Vian, retirer le cul de la coquille. Et vous avez une couille, ce qui constitue précisément une coquille d'imprimerie. Donc, je vais noter. Oui.
Page 38, alors qu'est-ce qu'il y a, page 38 ?
Alors, qu'est-ce qu'il y a, page 38 ? Alors, c'est aussi une coquille, page 38 ?
Non. Bah non, c'est la seule que j'ai trouvée. Théophile de Viaux, poète et homme. Parce qu'à chaque fois que vous présentez un texte de l'auteur, il y a une courte présentation.
Très courte, oui.
Condamné en 1624 pour athéisme à être brûlé vif, ce sera en effigie. Mmh. Il est incarcéré à la conciergerie pendant 3 mois en attente de son procès, puis condamné au bannissement qui sera aménagé. Le bannissement fut aménagé en quoi ? Comment ? Pouvez-vous nous parler de ces réductions de peine de cette époque ?
Le bannissement, c'est simplement qu'il est interdit de territoire. Voilà. C'est qu'il peut, il n'a plus le droit de venir à Paris.
Mais normalement, il est condamné, donc il y a quelque chose qui s'est passé entre la condamnation et le fait simplement de pouvoir partir.
Non, là, il a été condamné, il a attendu son procès qui a eu lieu, et sa condamnation, ça a été le bannissement.
Ah d'accord, je n'ai pas compris ça, excusez-moi.
Non, je vous en prie, Thierry.
Page 52, qu'est-ce qu'il y a, page 52 ? Là, je fais des petits détails hein, qui m'ont quand même intrigué, parce que je ne vous les poserai pas des questions, ça ne m'intriguait pas. Page 52. Ah voilà. C'est Germain Nouveau, 1851-1920, poète. En mai 1891, en plein cours de dessin, qu'il donne au lycée Janson de Sailly. Mmh. Il est pris d'une crise mystique que le recteur interprète comme un signe d'aliénation mentale. Il est interné 5 mois à l'hôpital de Bicêtre. Mmh. Et après, il y a un texte de Germain Nouveau qui raconte son incarcération. Peut-on vraiment parler d'une crise mystique, entre guillemets, qui n'est pas une crise de folie, où la folie et le mysticisme se rejoignent-ils parfois ?
C'est difficile à savoir. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que Germain Nouveau était vraiment, après une vie vagabonde, absolument extraordinaire, avait trouvé ce poste, et il donnait des cours de dessin, donc à Janson de Sailly, et en plein cours de dessin, il s'est agenouillé, et il s'est adressé à ses élèves, il a dit, mes enfants, Dieu est grand, etc., 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 une vraie crise mystique. Bon, c'est en quelque sorte. Alors, est-ce que c'est parce que la vie de Germain Nouveau, c'est beaucoup de vagabondage et aussi une tendance, effectivement, à un certain mysticisme. Parce que je vous rappelle qu'il a fini, il avait pris comme pseudonyme Humilis et il a fini mendiant à Aix-en-Provence. La légende veut que chaque dimanche, Cézanne venait lui donner l'obole. Et donc, alors, est-ce qu'on peut lier mysticisme et folie? Certainement, tout dépend de ce qu'on veut bien appeler folie.
Et de ce qu'on pense aussi.
Et sur, de ce qu'on pense.
Voilà.
Sauf que bon, alors, comme je le mets, pour le recteur de l'académie, ça rentrait pas vraiment dans les attributions d'un professeur de dessin, de se mettre à genoux et... voilà. Et donc, oui, alors, bon, mysticisme, folie, ça va ensemble. Si on prend, dans ce cas-là, vous lisez les écrits des mystiques, des grandes mystiques, Renan ou autres, oui, il y a sans doute de la folie, oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on entend par folie?
Non, mais c'est voilà. Ça aussi, parce qu'il y a des gens qui prient, il y en a beaucoup.
Oui.
Ils sont pas tous fous, enfin, on les considère pas tous fous.
Non. Donc, voilà.
Quoique, ça dépend qui aussi.
Lié simplement à la vie de Nouveau, si vous voulez.
Bon. Enfin, c'est un épisode, quoi.
C'est un épisode
qui de la vie. Qui lui a coûté 5 mois de prison.
Bah, 5 mois de Bicêtre, en tout cas.
Ouais. Quoi.
C'était pas la prison, c'était l'hôpital.
Peut-être pire.
Un asile, quoi.
On trouve Oscar Wilde dans votre livre. Est-ce vous qui l'avez traduit ?
Non, j'ai pris une traduction existante.
Non, parce que vous traduisez beaucoup l'anglais. Alors
oui, non, j'ai pris une traduction existante qui m'a paru tout à fait satisfaisante.
Dans la ballade de la geôle de Reading que vous présentez, je trouve qu'Oscar Wilde parle un peu par image. Image difficile à saisir complètement pour moi. Mais très très intéressante. Qu'en pensez-vous ?
Ben, retournons au texte.
Vous pouvez en lire un bout si vous voulez.
Ben, ça va donner une idée, oui.
Voilà, comme ça on a le temps.
Si vous m'indiquez la page, hein, attendez, je vais avoir sommaire.
J'ai pas ça. Page 62.
Eh ben voilà.
C'est les derniers vers. Les deux derniers vers, j'ai une question dessus. Lisez-les en particulier. J'avais une question sur les deux derniers vers.
Qui sont magnifiques d'ailleurs.
Ben ouais, c'est pour ça que je les ressors.
On va lire peut-être dans ce cas-là, plutôt du côté de la fin. Bon. Attendez, je vais essayer de trouver un
jeu. Mais lisez, allez-y, lancez-vous.
Non, parce qu'il faudrait que ça soit cohérent. Voilà, par exemple. Bon, on va commencer par le début, je dirais.
Mais la musique va se mettre en route, hein, s'il y a des blancs, trop de blancs à la radio.
La cour des endettés a du pavé rude et de hauts murs suintants. Or, c'était là qu'il venait prendre l'air, sous un ciel de plomb étouffant, accompagné de deux gardiens de peur qu'il ne mourût avant son temps. Ou bien il s'asseyait près de ses hommes, chargé nuit et jour de l'épier, et de l'épier quand il se lève en larmes, ou qu'ils se courbent pour prier, et de les pieds de peur qu'ils ne dérobent à leur échafaud son gibier. Le gouverneur était très à cheval sur les clauses du règlement. Pour le docteur, la mort n'était qu'un fait prouvé scientifiquement, et l'aumônier passait 2 fois par jour et remettait un document. Deux fois par jour, il allumait sa pipe et buvait sa chope de bière. Son âme était résolue et n'avait nulle place où la peur se taire. Même il disait souvent être content que bientôt le bourreau s'affaire, etc., etc. Et on va arriver à la fin. Nous n'avions rien à faire que d'attendre que le signal vint à son tour. Rocher de pierre en aval solitaire, nous demeurions muets et gourds, mais tous les cœurs battaient à coups pressés comme un fou bat sur un tambour. Avec fracas, notre horloge frappa l'air glacé de la geôle entière, d'où s'éleva un long gémissement d'impuissance qui désespère, pareil au cri dont le tremblement, dont tremblent les marais, cri d'un lépreux dans sa tanière. Et comme on voit les faits les plus horribles dans le cristal d'un rêve enclos, on vit la corde poisseuse de chanvre accrochée au noir soliveau, on entendit la prière étranglée en hurlement par le garrot, et la douleur qui brisa tant son cœur, qu'il eut ce cri amer et fort, les regrets fous et les sueurs de sang, je les sentis comme en mon corps, puisque celui qui vit plus d'une vie doit mourir de plus d'une mort.
Ces deux derniers vers, est-ce une manière de parler de ces écrivains figurant dans cette anthologie ?
Bah, d'une certaine façon, oui. Je pense qu'à la fois, c'est une manière de parler d'Oscar Wilde lui-même. D'abord, de la situation que la mort, là, qui est faite à un prisonnier, qu'on pend, tout simplement. Hein, c'est une autre façon. Doit mourir de plus d'une mort. Ce n'est plus une mort naturelle, c'est une mort infligée par l'injustice, puisque c'est dans le chapitre de l'injustice. Et je pense que ça réfère aussi, en quelque façon, à la situation même d'Oscar Wilde, qui a vécu trois vies au moins, dont celle terrible de sa condamnation, enfin celle qui fait basculer sa vie entièrement. De l'espèce de dandy de référence en Angleterre, en France, aux États-Unis, à cause de ce procès infâme. Donc, il bascule, il n'est plus rien. Il n'est plus rien. Et condamner ce prince de l'élégance à être un bagnard infâme, voilà, donc et il en sortira, mais complètement brisé, hein, comme vous savez, puisqu'il finira ses jours obèse et à Paris, à l'hôtel des Beaux-Arts. Donc, et d'une certaine façon, ça peut effectivement renvoyer à la condition de tous les détenus, puisque je cite en exergue de la préface ce magnifique vers de Théophile de Viau, « Il faudra qu'on me laisse vivre après m'avoir fait tant mourir ».
Bon, alors nous allons remettre un morceau de musique et après on passera brièvement à Amine Aloy. On
est
en retard.
Non, longuement Amine Aloy.
Non, on est en retard. Après il y a Sébastien qui attend impatiemment, qui va vous étrangler si je vous le dis, c'est pas de temps. Non, je rigole bien sûr. Mais on va mettre un morceau de musique. Musique, Erwan.
Vire à l'est. Sans complexe. À la recherche d'un coin sans stress. Vire à l'est. Sans complexe, je quitte l'Ouest, je prends des vestes et je me barre sans stress.
Sur l'étendue de ton corps, je me suis perdu sans adresse. Moi qui me croyais fort pour dénicher ton chingilingilingilai. Si jamais je suis trop à l'Ouest, dirige mes caresses à l'Est. Liubavi, ton cœur s'est planqué, je pars à l'Est pour le débusquer. Je viens à l'Est. Trip entre tes bras, qui perd le nord en quête de karma. Contre ton corps, sans autre artifice, je parcours l'épiderme de mes 10 doigts. Je gravis les montagnes de ton cœur sec, je déferle comme une lame sur tes fossettes. J'écume les pics, entre écanes atomiques, je pars à l'aise pour le débusquer. Je viens à l'est.
Bonjour, vous écoutez l'émission Des mots, une voix de Thierry et Erwan sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. Vous pouvez contacter directement l'émission au mail demo.unevoix@gmail.com. Nous recevons ce mois-ci Olivier Appert et Sébastien Berlendis. En première partie d'émission, nous recevons encore Olivier Appert, pardon, pour les questions de présentation et le livre Une anthologie de la littérature carcérale à l'ombre. Et nous allons maintenant passer à notre livre Mina Loy, Incel ou Portrait de l'artiste en tête de mort, un roman traduit et présenté par vous, Olivier Appert, aux éditions Nous en 2024. Alors la première question un peu bébête, savez-vous pourquoi Mina Loy a choisi ce titre ?
Non, pas du tout. Alors j'ai une hypothèse, Incel, le personnage héros est inspiré d'un peintre surréaliste allemand qui a réellement existé, qui s'appelle Richard Hölze. O dans l'eau, E dans l'eau, L-Z-E. Et c'est un peintre allemand. Et Insel, en allemand, c'est île. C'est une île. Voilà. Alors, île. Là, je me suis dit, et puis, bon, étonnamment, Insel, ça rime avec Binsel. Binsel, en allemand, c'est un pinceau. Alors, je me dis, voilà. Donc, l'île et le pinceau. L'île, parce que c'est un personnage, dans le fond, complètement solitaire, déposé là au milieu de nulle part, en quelque façon. Et donc, il est une île à lui tout seul. Donc, je pense que ça vient de... j'ai pas trouvé d'autres explications à ce titre. D'où, d'ailleurs, le fait que j'ai, pour ne rien vous cacher, rajouté moi-même le sous-titre. Parce que je me suis dit que Insel, c'est pas très parlant, donc j'ai mis Portrait de l'artiste en tête de mort.
Voilà. Pourquoi tête de mort ?
Parce que le personnage, si vous avez lu le livre, Thierry, n'est-ce pas ?
Vous le citez dans le livre.
Voilà, le personnage, Mina Loy, considère souvent qu'il a une Totenkopf, une tête de mort. Qu'il a parfois une tête de mort. Voilà.
Incel, le personnage dont, le personnage dont nous parle la narratrice, est inspiré de Richard Hölze. Qui était-il, Olivier Appert ? C'est lui surtout qui m'intéresse.
Bah, c'est un peintre. Vous connaissez sans doute, il y a un tableau, c'est un peintre allemand, surréaliste. Donc,
avec les chapeaux, là, c'est ton plus connu. Il y en a aussi d'autres qui sont très symboliques.
Voilà.
J'ai regardé un peu.
Qui sont vraiment surréalistes. Enfin, pour les auditeurs, etc., il suffit de se rendre à Beaubourg, pour ceux qui sont à Paris, ou sinon de le consulter. Il y a effectivement un tableau très connu de Hölze, qui est à Paris, donc, et un tableau qui s'appelle de 34, je crois, je vais dire de bêtises, 34, oui, qui s'appelle L'Attente, où on a des personnages vus de dos, en imperméable, avec des chapeaux mous, et qui attendent, et qui guettent un ciel gris menaçant. Donc c'est une anticipation.
Tout est un peu dans les teintes marron.
Marron et gris. Et donc c'est vraiment l'anticipation.
Il y a deux femmes, je crois, dans l'eau. Je connais beaucoup d'hommes et deux femmes.
Deux femmes en chapeau, deux femmes en habillé, et tous les hommes en chapeau, en imperméable. C'est assez sinistre, et ça dit vraiment l'anticipation, la prémonition de ce qui va venir en Allemagne, quoi, voilà. Donc, et ce que Hölze a fui, effectivement, en venant à Paris. Parce que donc, le roman est écrit, en 1936. Donc, il baigne donc, dans un climat à la fois, on va dire, surréaliste et isolé en même temps. Donc, Insel, donc l'isolation, l'isolement, l'essolement, voire du personnage. Et en même temps, le tout baigné dans un climat surréaliste, puisque dans le roman, on croise aussi bien... comme ça, qui passe Man Ray, qui vient passer...
Je n'ai pas reconnu tout ça.
Bah, c'est à la fin du roman, ça, Man Ray passe. Pas dû aller jusqu'au bout, Thierry. Je pense qu'on n'avait pas été jusqu'au bout du roman. Et donc, sinon, vous auriez vu, il est question de Dali, etc. Il est question de sous pseudonyme de Peggy Guggenheim. Peggy Guggenheim, qui était par ailleurs une amie de Mina Loy, qui l'a aidé quand Mina Loy était à Paris.
Oui, ça apparaît bien, ça.
Voilà. Et donc ce roman baigne dans ce climat, on va dire, surréaliste, étrange, très singulier, et en même temps fait, et c'est une façon, une sorte de contre, je veux dire, c'est une lecture que j'ai, c'est une contre, une contrefaçon, une contrefaçon non, parce que le mot n'est pas juste, pardon, une façon d'aller contre, enfin contre, avec et contre le Nadja d'André Breton. Parce que il y a une espèce de quête à un moment donné, comme ça, complètement éperdue, nocturne, qui part de l'hôtel Lutetia jusqu'à la gare d'Orsay, une sorte de déambulation qui n'en finit pas, qui s'étire toute la nuit, où le personnage petit à petit se transforme tout le temps. Un coup il est insaisissable, un coup il est trop vivant, trop matériel, un coup il est immatériel, un coup il se désintègre. Et c'est un personnage que la narratrice n'arrive pas à saisir complètement, parce qu'elle dit-elle, ce personnage n'a ni intérieur ni extérieur, où il est incapable de faire coïncider les deux.
Question rigolote, Olivier, oui. Vous n'avez pas l'aimé. Elle va bien, la narratrice ?
Elle va très bien.
je sais pas. Il y a quand même des choses surprenantes qui sont très très intéressantes, mais.
Comment ça? C'est une des intelligences. Alors, il y a un truc qu'il faut quand même, quand on lit Mine à l'œil, il faut savoir une chose. C'est que d'une part, c'est une intelligence supérieure, disons-le carrément, une intelligence supérieure, qui a compris que nous sommes composés d'une multiplicité de strates. Et qu'en même temps, on peut être à la fois extrêmement lucide, tout en étant parfaitement ironique, extrêmement compassionnel, tout en étant affreusement cruel. Et Mine à l'œil, c'est tout ça à la fois. Et la considération qu'elle a de quiconque elle rencontre, c'est un regard à la fois compassionnel, cruel, ironique, cynique. Et c'est ça qui fait l'étrangeté du livre, et qui fait qu'elle est, effectivement, par moments, comme elle a elle-même saisi, elle a été parfois mal comprise par ses contemporains, de fait.
Mais je trouvais que ses poèmes étaient plus, je sais pas quel mot employer, plus simple. Bon, c'est pas
non,
bon mot.
Non, je peux vous le dire, parce que j'ai traduit l'œuvre intégrale.
Ouais, moi je les ai bien lus aussi, bien, mais
non, c'est d'une complexité terrible.
Ça me parlait mieux, disons, oui, alors plutôt.
Peut-être que vous n'avez pas accroché avec ce roman, mais si vous voulez, la façon de prendre, d'aborder le monde, c'est ce que je viens de vous dire, c'est cette complexité-là. C'est-à-dire ce récit, c'est plus un récit qu'un roman. Moi j'aime bien la distinction de Blanchot entre roman et récit, le récit portant lui-même sa langue, on est plus du côté du récit. Et c'est le récit d'une déambulation à la fois, comme je viens de vous le dire, intérieure, une sorte d'introspection de l'être, et en même temps une déambulation extérieure, une vision du monde. Voilà. Par exemple, quand elle dit, je vais vous lire un tout petit passage, si vous le permettez, Thierry. Par exemple, elle parle de puisque le personnage d'Inzel, le peintre, est toujours, il est toujours harcelé par la misère, il est rusé, et en même temps, ce roman, ce récit, c'est aussi une critique, c'est terrible, c'est aussi une critique de l'artiste contemporain, enfin de l'artiste, et en même temps, aussi une exaltation de ce même artiste. D'un côté, elle le trouve ridicule, si j'ose dire, où elle se moque de lui, et de l'autre côté, elle reconnaît absolument le caractère unique de son talent.
Ben, elle reconnaît, par exemple, qui fait des belles toiles par moment.
C'est ce que je viens de vous dire.
Non, mais c'est ce que moi aussi, c'est voilà. Ce que je vous dis.
Par exemple, quand elle parle de sa situation économique, voilà ce qu'elle dit. Et alors, effectivement, la langue est un peu soutenue. Voilà. Et comment elle parle, effectivement, d'une situation économique d'un artiste. Elle dit la chose suivante. Un homme qui se retrouve économiquement nu, au cœur de l'épaisse forêt de fer de notre structure industrielle, devrait logiquement être frappé à mort en exposant l'intransigeance de ses besoins. Il est alors en situation primitive, dénué de la protection du travail quotidien, sphère d'activité dans laquelle ses amis font leur chemin. Pour eux, les atroces mâchoires du gigantesque organisme s'ouvriront à intervalles réguliers et cracheront la ration nécessaire à alimenter leur fusion avec le dynamisme hurlant, tonnant, fracassant du travail universel. Oui, je vois que vous n'écoutez pas, mais c'est pas grave.
Si, je voulais vouloir prendre cette question-là. Mais j'en pose une dernière, parce qu'elle m'intrigue, trop. J'en pose une dernière, Olivier, parce qu'elle m'intrigue trop. On a déjà parlé tout à l'heure hors micro. Avant la page 108, il y a les méandres de la narratrice pour convaincre Inzel de nettoyer son costume noir qui est sale crasse. Elle y arrive après des péripéties. Je n'ai pas tout compris. Le costume devient blanc. Pourquoi? Et dans cette page, en une phrase, il redevient noir. Lecture, page 102, la note sur la page de gauche. Pouvez-vous nous dire comment avez-vous compris ce passage, vous, Olivier Appert?
Bon, mais attendez, il faut que je le relise, parce que là, vous m'avez pris de court.
Page 108, je vais vous montrer où.
Parce qu'il faut qu'on...
Page 108.
Vous m'avez parlé de page
108. Non, mais 108.
Alors, pas le changement.
Voilà, cette phrase-là, là. En une plage, il change de couleur, le costume. En ligne, en une ligne.
Bah oui.
Et avant, il était noir, il devient blanc, puis en une ligne, il redevient noir.
Parce que, effectivement, tout simplement, il l'a revêtu, c'est tout. Il l'a revêtu.
Non, j'ai pas compris ça. Voilà.
Il l'a remis, donc il redevient tous les efforts qui ont été faits pour éviter cette désintégration du personnage, donc éventuellement en passant par le costume, donc redonner un costume blanc, il suffit que le Incel le reporte pour qu'il retrouve son état initial, c'est-à-dire noir.
Voilà. Ce sera le mot de la fin, Olivier.
Bien entendu.
Je vous remercie, Olivier. Nous allons passer à Sébastien Berlendis, qui est ici pour nous présenter Les Gomards, sorti en 2024 aux éditions Actes Sud. Alors on va commencer comme pour Olivier, mais ce sera peut-être un peu plus bref, je m'excuse à Sébastien, mais ça le fait souvent, c'est un peu n'importe quoi l'émission. Vous êtes né à Avignon, où vous y avez vécu jusqu'à 18 ans dans un lotissement. Que lisiez-vous tout enfant? Quel rapport aviez-vous avec l'art?
Alors, je ne suis pas issu d'une famille très lettrée, néanmoins... J'ai toujours vu ma mère lire, et elle lit encore, elle est encore en vie. Donc j'étais quand même environné de livres et de sport. Mon père était sportif, il a fait du football un assez haut niveau. Et voilà, donc je baignais dans...
Qu'elle lisait, votre mère, comme livre?
Alors elle lisait beaucoup de littérature policière et beaucoup de littérature anglo-saxonne. J'ai le souvenir de livres d'Agatha Christie, par exemple, et de textes d'Henry James, Edith Wharton, voilà. Je me souviens lui avoir beaucoup, beaucoup offert, quand j'étais plus jeune, des livres d'auteurs anglo-saxons. Mon rapport à l'art, il n'était pas immédiat, il n'a pas du tout été immédiat. J'ai toujours aimé lire, j'ai toujours eu, par chance, de bons profs de lettres. Je me souviens toujours de... Ma prof de collège qui s'appelait Colette Valette, j'ai cherché à la retrouver quand, il y a 11 ans, j'ai publié mon premier livre. Bon, je ne l'ai pas retrouvé. Mais voilà, elle m'a donné le goût de lire. Je me souviens aimer beaucoup faire des fiches de lecture, par exemple, lire les livres conseillés ou ordonnés par le professeur. Je lisais avec ma mère aussi, ma mère me faisait lire. Cet amour de la lecture et de la littérature a continué au lycée, elle s'est développée au lycée, toujours pareil, grâce à des profs, et puis aussi je me souviens, ça c'est un peu plus intime, grâce à mon amoureuse de lycée, voilà, qui était un peu l'intello du lycée. Moi j'étais plutôt sportif, j'ai fait aussi du sport.
Quel sport vous faisiez?
J'ai fait du football. J'ai pas eu le choix, et étant né dans le sud, mon père m'a mis sur un terrain de foot à 4 ans. Et par chance, j'ai aimé ça et j'étais bon. Et il a été question, à un moment donné, que j'en fasse ma vie. Il se trouve que j'ai bifurqué vers autre chose. Et voilà, je crois que je voulais plaire à cette jeune femme. Elle m'a offert des livres. Je crois que le premier livre qu'elle m'avait offert, j'étais en seconde. C'était Le Rouge et le Noir de Stendhal. Et puis elle aimait beaucoup Duras. Et ma première passion, c'est Duras. Voilà. Enfin, pour vous répondre rapidement, voilà, mon premier coup de cœur, c'est Duras. Et assez vite, ça a été Modiano. Souvent, on me demande, quand j'interviens en lycée ou ailleurs, quels sont vos auteurs préférés. Je cite ces deux auteurs. C'est net. Et mon rapport à l'art, oui. Alors, j'aimais lire, j'aimais les livres. Je commençais à en acheter un petit peu. Mais j'avais surtout un rapport fort à l'image. Voilà, j'ai découvert aussi, dans ces années-là, dans ces années de lycée, le cinéma, un cinéma dit d'art et essai. Et pendant longtemps, je me suis rêvé plutôt cinéaste. Je n'écrivais pas, vous me demandiez hors antenne si j'écrivais des poèmes quand j'étais adolescent, pas du tout. Je traduisais des chansons de pop anglaise, d'un groupe un peu sombre, The Cure.
Robert Smith.
Voilà, c'est tout ce que je faisais en écriture. En revanche, je me rêvais plutôt cinéaste, j'avais un rapport fort aux images. Comme je n'avais pas assez de courage pour me lancer dans le cinéma, j'ai fait beaucoup de photographies. Thierry est parti.
Mais continuez.
Et comment dire,
la photographie,
le cinéma. Enfin bref, c'était l'image qui m'habitait.
Pas la peinture.
Pas la peinture du tout. Enfin, j'aime la peinture, mais vraiment, c'était le cinéma. Le cinéma est ma passion première, peut-être plus forte encore que la littérature et l'écriture. Voilà, vous voulez que je parle de mes études?
J'ai tout ça, mais vous pouvez le faire.
Oui, alors j'ai fait des études.
C'est important.
À la grande surprise de mon père, j'ai arrêté le football à un certain niveau tout de même. Ça a toujours fait rire mes élèves, je vais en parler de mes élèves. Donc je me suis lancé dans des études de philosophie jusqu'en cinquième année. À l'époque, on appelait ça. Enfin, j'ai fait un DEA, aujourd'hui on dirait un Master 2. De philosophie et de cinéma, enfin mon master en tout cas. J'ai passé le concours pour être prof de philo, j'ai eu le CAPES et j'ai enseigné 24 ans la philosophie en lycée public avec une immense joie.
Vous faites plus ?
Non, plus depuis septembre 2023. J'ai mis mon travail sur pause pour me consacrer davantage à la création, à l'écriture, au cinéma.
D'accord.
Parce que je m'y suis mis au cinéma, enfin, j'ai réalisé des courts films. Un premier en 2021 et un deuxième là en mars 2024. Et voilà, j'adore enseigner, je ne sais pas quel temps employer. Mais il y avait tout de même une petite frustration, même si j'avais quand même du temps, j'avais pas tant de temps que ça, beaucoup de classes, beaucoup d'élèves, beaucoup de travail. Et une petite frustration de ne pas pouvoir créer davantage. Donc j'ai mis mon métier sur pause. Il y a bientôt un an, enfin 6-8 mois.
Bah c'est bien.
Et cette pause va se poursuivre à la rentrée prochaine. C'est une décision que je viens de prendre il y a peu et qui me cause quelques tourments. Parce que je ne sais pas si c'est une bonne décision de vouer mon temps et ma vie uniquement à la création.
On en rêve.
Non, en fait, je sais pas. Enfin, c'est une année que je pensais rêver. Enfin, c'est une belle année cette année qui est entièrement dédiée à la création. Mais en réalité, je crée peu parce que je fais beaucoup de pour vivre quoi. Pour
non, parce que ouais, je pensais parce que le cinéma, ça prend du temps.
Hein. Oui, tout prend du temps. Mais surtout, pour parler de manière prosaïque, je n'ai plus de salaire, donc je dois faire des ateliers d'écriture, des résidences que tous les auteurs et autrices font.
Moi, j'aurais bien aimé, mais il faut manger, malheureusement.
Oui, c'est pour ça que je passe pas mon temps à créer.
Ouais, moi, j'aurais bien aimé. Hein. Là, maintenant que je suis retraité, c'est la belle vie. Hein.
Vous auriez bien aimé quoi ?
Créer, c'est à plein temps.
Oui, mais en fait, c'est ce que j'espérais de cette année, mais en réalité, je prends beaucoup de temps pour... les ateliers d'écriture que je construis à droite à gauche, dans différents espaces en banlieue parisienne, en Seine-et-Marne et puis dans le centre Val-de-Loire et puis dans le Var, je suis beaucoup en déplacement et je m'aperçois que j'ai assez peu créé à part ce court film qui est une chose tout de même importante, mais je n'ai pas beaucoup écrit, je le regrette un peu, l'enseignement me manque, j'ai l'impression que ma vie a moins de sens que lorsque j'enseignais, et pour autant je vais poursuivre dans cette voie exclusivement artistique. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Voilà. Mais on va pas parler de ça, sinon ça va trop me tourmenter.
Rions-en. Aviez-vous accès, ça vous le parlez. Oh non, à la bibliothèque, oui, vous avez parlé un peu. Enfin, je vous la pose quand même. Vous avez rajouté quelque chose, vous rajoutez. Aviez-vous accès plus tard, j'avais à 18 ans, là. Plus tard à une bibliothèque familiale ou municipale, et aviez-vous le droit de tout lire ou y avait-il des interdits ?
Comme je vous l'ai dit, il y avait des livres à la maison.
Vous n'alliez pas à la bibliothèque municipale ?
Je ne me souviens pas trop.
D'accord.
Non. J'ai fréquenté les bibliothèques étant étudiant. Moins quand j'étais plus jeune. Je n'habitais pas dans une grande ville. Je lisais les livres, les livres qu'il fallait lire pour le collège ou le lycée. Je commençais à acheter des livres, on m'en offrait. J'avais une petite bibliothèque, je me souviens ainsi, voilà, j'ai quelques images de moi dans ma chambre d'ado. Il y a une petite bibliothèque avec des livres classiques, des livres d'auteurs et autrices du 19e, quoi, exclusivement. Et ensuite, vraiment, à la fin du lycée, quand je suis parti à Lyon étudier, je me suis mis à lire de littérature contemporaine et aujourd'hui, je ne lis plus que ça.
Comment, alors, c'est la même question qu'à Olivier. Comment écrivez-vous, même question, à la main, à l'ordinateur?
Alors, j'ai commencé à écrire sur des carnets, parce que j'y voyais mieux. Et puis, progressivement, je me suis mis à écrire sur l'ordinateur parce que je me suis mis à écrire vite sur l'ordinateur. Et à présent, je vois mieux sur l'ordinateur. Donc, je n'écris qu'à l'ordinateur. Et il n'y a plus de traces, malheureusement, peut-être, il n'y a plus de traces écrites, manuscrites. Parce qu'à une époque, j'étais dans un entre-deux, j'écrivais sur mes carnets et tout de suite je mettais au propre sur l'ordinateur. Mais ça me prenait un temps fou quoi, de faire les deux. Donc maintenant je n'écris qu'à l'ordinateur. Et je n'écris que chez moi. Je me souviens de la prochaine question, dans quel espace écrivez-vous? Je n'écris que dans mon salon, sur mon canapé ou au bureau. Et comme Olivier, je crois, je peux prendre des notes. Je lis beaucoup dans les cafés, je peux prendre des notes dans les cafés. Je peux aussi prendre des notes. Cette année, je fais beaucoup ça parce que je voyage beaucoup en train et donc je lis et je prends des notes dans le train. Mais quand il s'agit d'écrire vraiment mes textes, mes romans, mes récits, c'est chez moi exclusivement.
Le matin, le soir, la nuit?
Alors jamais la nuit, jamais après 19h, sinon je ne dors pas. C'était pareil quand j'étais étudiant, je me refusais à faire des travaux après 19h, et étant prof également. Donc c'est plutôt... alors quand j'étais enseignant, parfois j'avais un jour off, c'était pas tout le temps le cas, donc là, je pouvais écrire le matin ou l'après-midi, mais quand j'étais prof, et j'ai été prof 24 ans, j'écrivais après les cours. À part quand j'avais beaucoup de copies à corriger ou un cours à peaufiner, à préciser. Mais souvent, voilà, je rentrais, ça dépendait, 16h, 17h, 18h, il y avait un temps de pause, et puis je me mettais au travail, j'étais dans un rythme de travail permanent, et j'écrivais de 17h30 à 19h à peu près, quelque chose comme ça, vraiment des courtes séquences, et puis à présent, je peux plus librement... Et écrire le matin, l'après-midi, il n'y a pas de règle, sauf que je n'écris pas le soir. J'aime bien, en fait, je me lève tôt, je vais au café, je pense à ce que j'ai écrit la veille, je relis ce que j'ai écrit la veille, comme Olivier, une fois que je pense très longuement dans ma tête à la phrase que je vais poser sur l'ordinateur ou sur le cahier, une fois qu'elle est posée, elle ne bougera plus, et le manuscrit sera remis ainsi... à l'éditrice, elle le prend comme cela ou elle ne le prend pas. Évidemment, je ne suis pas complètement dogmatique et je peux accepter qu'on enlève trois lignes et qu'on précise trois choses. Mais une fois que la ligne, la phrase est posée, elle ne bouge plus. Donc voilà, là, cette année, j'ai un peu plus de temps. Je ne vais pas en cours le matin. Je relis ce que j'ai écrit la veille. Je me mets dans ce rythme-là. Et puis, vers 10-11 heures, les phrases commencent un peu à arriver. Et... on va dire que je vais écrire jusqu'en milieu d'après-midi, puis ensuite je vais aussi...
Et par exemple, Longomar, le livre dont on va parler, vous l'avez écrit le fameux été ou plus tard?
Non, plus tard. Alors c'est... tous mes textes sont écrits de... enfin, obéissent à ce rythme-là. Vous avez lu tous mes livres, hein, vous savez que mes livres arpentent à chaque fois un espace géographique en particulier, italien souvent. Et c'est le cas dans celui-ci, puisque le Lungomar dont il est question, c'est le bord de mer Ligure, le long de mer Ligure, la côte Ligure, qui court de San Remo à Porto Venere, et qui forme un bel arc de cercle, l'arc de cercle génois. Et donc cet arc de cercle, je l'ai arpenté plusieurs étés, accompagné, et caméra, avec mes caméras à la main. Et pendant ces étés-là, je prends des notes. Je tiens un journal d'été. Je n'écris pas autrement de journaux intimes ou quotidiens. Je n'écris que lorsque je pars en voyage longtemps et souvent l'été. Et voilà. Et quelques temps passent, parfois quelques mois, parfois quelques années. Là, ça a été assez rapide puisque le dernier été Ligure, c'était en 2018. Et il me semble que j'ai écrit le texte un peu dans la foulée, quoi. Enfin, à l'automne, c'est souvent... les idées arrivent à l'automne, je ne l'explique pas. Et en fait, voilà, j'ai le désir d'écrire sur cet espace-là, sur ce voyage-là, sur cet été-là. Je ne sais pas comment m'y prendre, mais je tourne autour de cet espace, et puis dans cet espace, je vais cibler quelques lieux en particulier. Alors, je présentais que le livre commencerait à Saint-Rémy, comme mon voyage avait lui-même commencé à Saint-Rémy, qu'il irait jusqu'à Porto Venere qui clôt l'arc. Il y aurait un chapitre nocturne à Gênes, et puis le point central du livre serait cette station balnéaire que je nomme dans le livre Rocabianca. Une fois que j'ai ciblé ces quatre espaces, je peux commencer le texte. Et il n'y a pas de règle, voilà, parfois le désir d'écrire sur cet espace déjà arpenté vient quelques années après, parfois c'est plus rapide, je crois que pour Longomar c'était rapide.
Quel livre, photographie ou film fut un choc pour vous, vous apportant un monde nouveau lors de votre jeunesse? Là, on va parler de l'image.
Alors, livre...
Non, on enlève livre, photographie et film. Livre,
Le marin de Gibraltar de Marguerite Duras.
Ouais, c'est bien ça.
C'est le premier que j'ai lu d'elle, c'est le premier qu'on m'a offert, donc cette fameuse amoureuse de lycée. Mes premiers films d'art et essai que j'ai vus et qui m'ont marqué... Et qui ont été vraiment un choc. Ma maman était lisait beaucoup et elle aimait beaucoup le cinéma, un certain beau cinéma français des années 70. Elle aimait beaucoup Claude Sautet et François Truffaut. Elle avait une passion pour Romy Schneider et Michel Piccoli. Et donc j'avais cette culture là quand même par ma mère. Et puis ensuite j'ai basculé vers des choses un peu plus arides, quoi, un peu plus arides. Et en fait j'ai découvert, je crois que j'avais 16 ans, oui je me souviens bien, j'étais en première, j'ai découvert Le Petit Soldat de Jean-Luc Godard. C'est pas mon préféré de Godard, mais tout de même c'est un film qui m'a saisi, parce que je n'avais jamais vu un film construit de cette manière là, enfin construit, déconstruit, et avec une beauté de la langue aussi vraiment très particulière. Je me souviens, ben voilà ma pratique d'écriture, donc je traduisais les chansons des Cure. Ensuite je me suis mis à écrire les dialogues qu'il y avait dans les films de Godard, et ensuite j'envoyais tout cela à ma fameuse amoureuse de lycée, qui était une vraie intello, avec trois grandes sœurs. Et à un moment donné, je me souviens qu'elle me dit « Arrête de m'envoyer des phrases de Jean-Luc Godard ». Elle connaissait Godard, c'était mignon. Voilà, donc ça, c'était un choc. Est-ce que c'est le cinéaste que j'aime le plus au monde? Pas loin. J'aime beaucoup, beaucoup Antonioni. Voilà, ça, c'est un autre choc. Et je pense que dans mes livres, vous le savez, Thierry, mes livres sont très photographiques ou cinématographiques, enfin inspirés par.
Vous n'avez pas dit la photo.
Différentes images.
Après, oui, la photo,
j'ai pas dit.
Pour moi, ça compte énormément,
oui.
La photo.
Bah, c'est plus. Alors, en cinéma, c'est plus, voilà, le cinéma un peu dérivant et suspensif d'Antonioni.
Pas le cinéma de. Les avant-gardes des années 20, 40.
Non, c'est je suis très années 60.
D'accord.
Voilà. J'aime bien les nouvelles vagues mondiales, on va dire, puisque j'ai même fait mon master en philosophie, c'était sur la nouvelle vague du cinéma japonais, avec Oshima et Imamura. Mmh. Donc j'aime bien la nouvelle vague suédoise, j'aime bien la nouvelle vague italienne, la nouvelle vague brésilienne, le cinéma nouveau, bref. Je suis vraiment très marqué par les années 60, esthétiquement parlant, quoi. Mmh. Et voilà, Antonioni, c'est peut-être la référence majeure dans la construction de mes livres, qui sont, vous le savez, des livres pas écrits de manière linéaire, mais très dérivants, très suspensifs, un peu rêveurs, avec des fins qui n'en sont pas vraiment. Et je me souviens de l'Aventura comme un choc majeur, quoi. Voilà, enfin, ce film qui commence où une femme disparaît, un couple la cherche, puis finalement, au bout de 25 minutes, on se fiche complètement de la disparition de cette femme, et un autre film commence. Une autre histoire d'amour qui se termine, on ne sait pas vraiment trop comment. Et j'aime beaucoup, beaucoup ça, j'aime beaucoup son cinéma, qui est voilà, une grande source d'inspiration dans la construction de mes livres. La photographie, comme je n'avais pas le courage à 20 ans, 20, 22 ans, de faire du cinéma, ça me semblait vraiment trop compliqué. Je me suis mis à faire de la photographie argentique. À l'époque, évidemment, il n'y avait que ça. Et puis. Toujours, je suis resté fidèle à ce format-là. Et ça a été une activité importante, presque semi-professionnelle, avant que la littérature n'emporte tout. Enfin, l'écriture prennent le pas sur tout le reste. Dans les années 2007-2012, voilà, j'ai commencé à écrire dans les années 2010-2011. Mon premier livre est sorti en 2013. Et avant ces années-là, pendant 7-8 ans, j'ai beaucoup fait de photographie. J'ai pas mal exposé, à droite à gauche, en France, une fois ou deux, je sais plus, en Italie.
Ouais, c'est bien, c'est vrai, il y a une référence quelque part en Italie, vous avez exposé.
En Italie, à Venise, ouais. À Venise, c'est sûr, mais il me semblait que j'avais exposé ailleurs, mais je crois pas. Et la photographie reste importante aussi dans l'écriture de mes livres, puisque je n'écris qu'à partir d'images, alors soit photographiques, soit cinématographiques. Concernant les photographies, ce sont des images que je fais, des images que je trouve, des images que j'aime. J'écris toujours avec...
Attendez, je vous coupe, parce que pour des raisons techniques, nous allons mettre un morceau de musique, Erwan. Musique, Erwan.
Promise we made, follow the trees, then dive in the sea. That will be the end of your journey. In a heartache, swallow my pride. Features of fate, swatched by the tide. I was the queen.
Vous écoutez l'émission Des mots, une voix de Thierry et Erwan sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Vous venez d'écouter un morceau d'Emma Sand où joue Cyril Latour, un invité qu'on a eu il n'y a pas très très longtemps. Et nous avons eu en première partie d'émission Olivier Appert pour son livre Anthologie de la littérature carcérale de Charles d'Orléans à Charlie Bauer à Londres, sorti au Temps des Cerises en 2023. Et pour on n'a pas eu beaucoup de temps d'en parler, mais on peut pas parler de tout, je suis désolé. Pour la traduction et la présentation du livre de Minalok Insel. Et maintenant, nous sommes en entretien avec Sébastien Berlendis pour le livre Le Goumard, sorti aux éditions Actes Sud en 2024. Alors, il y a une autre question que je voulais vous poser, ça c'est personnel, mais je vous la pose parce que j'ai pas rien à cacher. Est-ce qu'il y a une galerie, un lieu où on peut voir de vos photographies?
Non.
D'accord. Non, vous avez récemment replongé dans vos bobines de cinéma Super 8 au point d'en faire un film Vercors qui circule dans les festivals. Ça, vous en avez déjà parlé, on peut passer, ça n'a plus beaucoup de temps. Quel rapport avez-vous avec le cinéma? On a déjà parlé.
Le cinéma a une influence à la fois dans l'inspiration de mes textes, je pars d'images photographiques ou cinématographiques, et dans la construction également de mes livres. J'aime bien présenter, j'ai souvent lu ça dans les papiers qui ont été consacrés à Lungomar, et je me souviens notamment d'un papier écrit, enfin c'est plutôt un entretien que j'ai eu avec Sylvie Tanet qui écrit pour Les Inrecuptibles, et là c'était pour une super émission de radio sur RTS, la radio suisse, et elle présentait le livre comme un lent et doux travelling côtier, avec parfois des arrêts sur image. Et je trouvais ça assez beau parce que ça résumait un petit peu l'objet, quoi. Enfin, et puis cette double influence du cinéma et de la photographie. Et c'est assez juste, enfin, ce qu'elle a dit, et ça me convenait parfaitement, puisque ça, c'est quelque chose que j'ai réfléchi, quoi, enfin, que j'ai pensé. Je voulais vraiment qu'on sente que le livre se déploie comme un film, avec des flashbacks, avec des flash-forwards. Parfois, ça s'accélère, parfois, on revient en arrière. Il y a une double narration. Il y a l'été au présent, l'été amoureux est présent, le long de cette côte ligure, avec le personnage féminin important, Annabella. Et au cours de cette déambulation côtière, le narrateur se souvient de la jeunesse de ses propres parents qui auraient vécu dans ces mêmes espaces. Donc voilà, il y a une double narration présente et qui est parfois arrêtée, coupée par des réminiscences passées, et la narration est arrêtée lorsque le narrateur, qui a avec lui des images, souhaite raconter les images qu'il a avec lui. Et ces images racontent quoi? La jeunesse de ses propres parents. Donc, voilà mon rapport à l'image et au cinéma.
Là, vous dites que vous aviez une caméra tout à l'heure, vous avez dit.
Oui.
Alors, dans le livre, vous ne dites pas que vous aviez un appareil photo?
Si, si, oui.
Ah oui, c'est
oui.
Ce qui me semble.
Dans tous mes textes, pour le moment, mes sept textes ont écrit à la première personne. Donc, on le comprend assez aisément. Enfin, les personnes qui me connaissent le savent. Ils ont une base autobiographique, mais cette autobiographie est vite débordée, dépassée par la fiction, l'invention, le fantasme, la dramatisation. Mais tout de même, le narrateur, c'est moi sans être moi. Il a toujours un appareil autour du cou, comme moi lorsque je voyage. Il a toujours une caméra qui est pas loin, comme moi lorsque je voyage. Oui, le narrateur, je ne sais plus quelle est votre question, mais le narrateur...
Ben, c'est que vous avez dit lors de l'entretien, là, aujourd'hui, que vous aviez une caméra... Et dans le livre, je crois qu'il est dit que c'est un appareil photo que vous avez.
Oui, oui. Bah, appareil photo, caméra, je fais pas de distinction. Sur les caméras, on pense au cinéma. Mais pour moi, une caméra, c'est aussi un appareil photo. Mais effectivement, dans le livre, il a un reflex autour du cou.
Voilà, c'est ça.
Et il parcourt cet arc de cercle. Et la narration s'arrête lorsque le narrateur éprouve le besoin de fixer un visage, souvent féminin.
Comment s'est passée votre première exposition photographique et comment s'est passée la première publication d'un manuscrit en livre? Question en deux temps, ceci car les débuts sont souvent difficiles pour les artistes.
Ma première exposition photo, c'était dans ma ville natale à Avignon. J'ai explosé. Je lis lapsus parce que j'ai exposé dans un cloître. Voilà. Grâce à mon grand-père maternel qui connaissait certaines personnes qui... Voilà, j'ai pu accéder à ce bel espace. Et ensuite, différents festivals ont accueilli mes travaux à Arles, par exemple. Et la publication de mon premier livre, c'est très long, Thierry. Oui, on a un peu de temps.
Non, on va passer au livre après.
Ça a été à la fois un peu compliqué, puis finalement pas si compliqué parce que j'ai envoyé le texte à l'ancienne par la poste. J'ai eu beaucoup de refus, enfin j'ai eu exclusivement des refus. Mais quatre maisons s'étaient tout de même positionnées. C'est un refus hésitant, ou c'est un oui mais ou un non mais. Et par chance, c'est ma petite chance, c'était des maisons d'édition un peu importantes, quoi. Il y avait Gallimard qui m'a téléphoné, Vertical avec Yves Pagès, Arléa qui publie Pasolini, La Longue Route de Sable, donc j'étais trop content, et puis Stock, Brigitte Giraud qui est écrivaine, bon voilà, connue et reconnue depuis 2 ans qu'elle a eu le prix Goncourt, mais elle dirige une collection chez Stock, une très belle collection, La Forêt, et c'est elle qui était la plus enthousiaste, et c'est avec elle que j'ai travaillé, retravaillé plein de fois le premier manuscrit, qu'elle a toujours refusé. Mais voilà, tout cela pour dire que malgré ces refus, c'était des refus encourageants, et je me suis dit que peut-être que, je sais pas, ça m'a donné confiance tout simplement, et j'ai adoré écrire. Je n'écrivais pas avant, voilà, ça m'est tombé dessus. Après un été consacré à faire une série photographique pour une exposition, pendant cet été-là, j'ai tenu un journal pour la première fois de ma vie. Ce journal, je l'ai transformé en roman. Ce roman, je l'ai envoyé à une vingtaine de maisons d'édition. Et puis, il a été un peu repéré, ça m'a donné confiance, j'ai eu énormément de plaisir à écrire. Et le deuxième a été écrit dans la foulée, et il a été accepté très vite, tout de suite, par Brigitte Giraud, qui a fini par accepter mon premier manuscrit 2-3 ans après, lorsque j'avais enfin compris ce qu'elle me reprochait, et je l'avais réduit d'un tiers.
parce que c'est très dur hein, de sortir un livre chez une maison d'édition, vous le savez, quand on l'envoie, ça marche beaucoup par relation, quoi.
Alors, sans doute plus maintenant, parce que tout le monde écrit, enfin, tout le monde écrivait déjà il y a 15 ans, mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus dur, ouais. Et, bon... Après, moi, je l'ai envoyé
par
la poste. Ça, savoir, ça, peut, à, ça peut arriver quand on me demande des conseils.
C'est pour encourager les gens. Quoi.
Oui, non, mais il faut écrire. Enfin, bien choisir la maison d'édition, ne pas envoyer à toutes les maisons d'édition. Enfin, connaître un petit peu le catalogue, avoir une sensibilité proche de, je sais pas, de POL, d'Actes Sud. Enfin, Actes Sud, la collection, un endroit où aller en particulier. C'est pas la même chose que le domaine français. Voilà, ce sont les conseils modestes que je donne à mes amis, à des inconnus qui me demandent comment on fait pour être entrer en lien avec tel éditeur, tel directeur de collection.
Alors maintenant, nous allons passer à Longomar, sorti aux éditions Actes Sud en 2024, de vous, Sébastien Berlendis. Première question, pourquoi ce titre très explicite quand on a lu le livre, mais le mot déjà n'est pas en français et peut-être certains en ignorent le sens?
Oui, alors, bah, dommage qu'on ne puisse pas couper parce que là j'ai bugué. J'aime bien les titres qui sont à la fois programmatiques et un peu énigmatiques. Et je trouve que ce titre, Lungomar, même si on parle pas italien, on comprend lungo mare, bon, le long de la mer. Ça veut dire exactement front de mer, mais je trouve que front de mer est plus dur à l'oreille et lungomar est plus doux et plus joli à entendre et colle bien avec ma prose qui est, vous le savez, une prose plutôt douce quoi. Et voilà, c'est un texte qui décrit, je l'ai dit tout à l'heure, une dérive, une promenade le long de la mer, le long de la mer italienne, le long de la côte Ligure. Voilà pourquoi j'ai choisi ce titre.
Vous dites dans le prière d'inséré que ce livre est le septième du neuf commencé en 2013 avec Une dernière fois la nuit sorti aux éditions Stock. Pouvez-vous nous parler de l'unité que l'on trouve dans vos sept livres et pourquoi travaillez-vous ces thèmes, cette ambiance presque obsessionnellement?
Oui, c'est juste, bah, vous avez tout dit. Ouais. Vous savez qu'il y a sept livres qui creusent le même sillon avec des obsessions majeures, l'Italie, l'été, mais sept livres sont des livres estivaux.
L'Allemagne aussi dans...
Oui, mais Berlin, on ne peut pas dire que l'Allemagne soit une obsession.
Non, l'été on trouve d'autres
oui,
endroits. Quoi.
Oui, j'ai dit. Mais l'Italie est une obsession parce qu'elle revient dans 4 de mes 7 livres. Et le texte que j'ai écrit avec mes élèves des saisons adolescentes, 35 fragments de mémoire adolescente, il y a des fragments italiens. Donc 4 livres et demi sur 7, on peut dire que c'est une obsession. Et il y a effectivement, mon avant-dernier texte 16 lacs et une seule mer se balade du côté de l'Allemagne, mais toujours l'été. Donc les obsessions majeures sont l'Italie, l'été, la dérive un peu rêveuse, la question de la mémoire, évidemment. Tous mes textes partent à la recherche d'eux ou se souviennent d'eux. Voilà.
C'est très cinéma, quoi.
C'est très cinéma, c'est oui, sans doute. Bah, oui, merci de le dire. Ouais.
Oui, c'est vrai. Je n'ai pas lu celui-ci, mais là, quand vous en parlez, je vois un film.
Oui, bah merci, ouais. Ouais.
Je vois une
oui, vraiment.
Peut-être que vous en avez parlé.
Bah, c'est vrai que tous mes textes sont un long film, quoi. Voilà.
Il y a aussi une dérive amoureuse qui est très importante
oui,
dans vos livres.
C'est vrai que
on
la
peut
question
en parler
du désir,
aussi quelques mots.
La question du désir amoureux
c'est
traverse
le côté désirant. Chez
oui,
vous.
Traverse tous les textes, la présence de personnages féminins, parfois. Plus ou moins présent, plus ou moins absent, évanescent, fantomatique. Là, dans Lungomar, je suis content parce que le personnage est vraiment très très incarné
présent. Ouais.
C'est le personnage principal du livre. Voilà. Et j'ai parlé tout à l'heure, au début de l'entretien de Modiano, c'est vraiment aussi une influence majeure. Je l'aime beaucoup. Je comprends pas qu'il soit parfois moqué. Je peux me fâcher très très sévèrement avec des gens qui n'aiment pas Modiano et je rêverais d'être un peu lui, quoi. Voilà. Et je partage un peu ses obsessions. Mes textes sont un peu plus sont écrits dans une langue un peu plus sensible et sensorielle que lui, mais la question de la mémoire, la question de revenir dans des espaces déjà arpentés,
nostalgie.
Plus la mélancolie que la nostalgie. Alors c'est vrai qu'il est peut-être plus nostalgique que mélancolique. Moi j'aurais tendance à dire, alors c'est pas le prof de philo qui parle, mais J'aime bien distinguer la mélancolie de la nostalgie, et je crois que mes textes sont plus mélancoliques que nostalgiques. Il n'y a pas de regret du passé. En revanche, il y a une urgence à écrire le temps présent parce que celui-ci file vite et disparaît. J'aime bien citer la définition que Freud donne de la mélancolie, c'est le sentiment que l'on éprouve lorsque, vous voyez les guillemets, l'ombre de la disparition tombe sur moi. Et mes textes sont très, tu le sais Thierry, très lumineux, très solaires, mais ils sont toujours ombrés par l'ombre de la disparition.
Le temps qui passe,
la fin de la jeunesse, la fin de l'été, la fin d'un amour, voilà.
Je posais une dernière question, Sébastien Berlendis.
Oui.
Elle me compte, celle-là. Pourquoi dites-vous aussi dans le prière d'insérer que cette côte populaire est parfois moquée ? Est-ce tout simplement le mépris des bobos de la bourgeoisie envers la classe ouvrière, autrement dit un autre nom de la lutte des classes en extrapolant ?
Oui, c'est assez juste, ouais. Ben oui, c'est vrai que mais même mes amis qui ne sont pas des grands bourgeois ne comprennent pas ma passion pour les stations balnéaires populaires, les campings. Je passe mes étés, dans des campings. Ça vient de mon enfance, j'ai été quasiment éduqué dans un camping populaire varois. Et j'aime ça, autant pendant l'année j'aime le calme, le silence et la solitude, autant l'été... J'aime aller dans les stations balnéaires populaires qui sont souvent moquées et jugées très moches, mais que je vois peut-être avec mes yeux d'adolescent ou avec, je sais pas, les yeux d'un cinéaste des années 60, quoi.
Merci Sébastien Berlendis.
Merci à vous.
Merci Olivier Appert.
Merci cher Thierry.
L'émission est finie. Le mois prochain, nous recevrons Frédéric Pajac. Lise Kervenik pour leur livre. Bon, il y a plusieurs livres, donc on verra tout ça. L'émission est finie et nous allons remettre l'indicatif. Indicatif, Erwad, merci. C'était l'émission Démo, une voix sur Radio Libertaire. Au mail demo.unevoix@gmail.com. Et vous pouvez contacter directement l'émission ou prendre la carte d'auditeur au 145 rue Amelot, la librairie Publico, émission Démo Une Voix, dans le 11e arrondissement à Paris. Indicatif, Erwan, merci. We'll be right back.